Bonjour, chaque dimanche, nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous proposer, grâce à un invité, un livre, une réflexion philosophique, historique, politique, que sais-je encore, qui, nous l'espérons, vous enrichit et vous permet de mieux vous arrimer au monde actuel, pour employer de grands mots. Une exigence, être clair, compréhensible par le plus grand nombre, car les connaissances sont faites pour être partagées, et c'est pour cette raison que nous sommes ravis d'accueillir cette semaine Michel Onfray, pour lequel ces notions de partage et de clarté ont un sens. Il publie un nouveau volume de la brève encyclopédie du monde. Après Cosmos et Décadence, voici Sagesse. Il est donc le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, ne serait-ce que pour que vous fuyiez les idéologies, car comme l'écrivait le regretté Jean-François Revel, l'idéologie, c'est ce qui pense à votre place. Idée, un magazine que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez sur notre site, sur iTunes aussi, ou sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro, de vous voir à ce micro. La phrase de Revel que je viens de citer est en exergue d'un des livres de votre maître Lucien Gerfagnon, livre qui s'intitule « L'histoire de la pensée d'Homère à Jeanne d'Arc ». Lucien Gerfagnon, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous.
Oui, il a été déterminant. Je veux dire que je ne serais pas ce que je suis sans lui, sans la main qu'il m'a tendue quand j'avais 18 ans, 19 ans. Je ne saurais imaginer un trajet existentiel de vie, mais même philosophique, sans lui. Donc, je suis effectivement la phrase de Revel est tout à fait bien choisie. Je suis redevable de cet esprit-là de Lucien Gerfagnon, qui était aussi l'esprit de Jean-François Revel. C'est aussi d'ailleurs l'un des maîtres à penser d'Henri de Montvalier, qui s'occupe de tout mon travail, qui a dirigé le Cahier de Lerne, qui s'occupe d'un volume bouquin chez Lafont pour moi. Et il y a une espèce de lignage qui fait que ce lignage est un partage. Donc, Gerfagnon, c'est effectivement, comme je l'ai beaucoup dit, mon vieux maître. Ça existe, un maître.
Alors, Michel Onfray, on en parlera de Lucien Gerfagnon pour parler de Rome dans un instant. Comment dois-je vous présenter exactement, philosophe, assurément? Et pour répondre plus complètement à cette question, j'ai donc lu le passionnant Cahier de Lerne qui vous est consacré. Il vient de sortir. C'est un privilège de se voir dans un Cahier de Lerne, d'ailleurs, Michel Onfray.
Oui, vous avez raison.
De ce vivant.
Oui. Absolument, parce que moi je me souviens qu'avec mon premier salaire, j'ai travaillé à l'usine et je m'étais acheté la Pléiade de Céline et le Cahier de Lerne de Céline. Donc si j'avais su effectivement un jour qu'un Cahier de Lerne me serait consacré, franchement, et donc quand Laurence Tacou, qui est la directrice de ces Cahiers de Lerne, m'a sollicité pour ça, je n'y ai pas vraiment cru, au départ j'y ai pas cru quoi. Elle m'avait sollicité pour intervenir dans le cahier Houellebecq, et puis elle me dit, mais je vous sollicite aussi pour un cahier vous concernant, et j'ai eu du mal à le croire jusqu'à ce que je le voie.
Et c'est un beau cahier. En plus, alors, j'indique aux auditeurs qui ne connaissent pas les Cahiers de Lerne que c'est un cahier, un livre, en fait, qui présente à chaque fois un auteur avec de multiples contributions, de multiples angles de traitement. Alors, au fil de ces très nombreuses contributions des auteurs à ce cahier, j'ai la confirmation, Michel Onfray, que vos livres défendent une vision du monde athée, hédoniste, libertaire et matérialiste. Ça, c'est Henri de Montvalier qui a dirigé ce cahier, dont vous parliez un instant, et qui ajoute dans un autre article que vous êtes un homme oxymorique, c'est-à-dire des contraires en un seul être, un nomade enraciné en Normandie, un encyclopédiste minimaliste et qui fait montre d'une rationalité lyrique. Je trouve que le mot est bien choisi. J'apprends aussi que selon l'éditeur Gilles Aéry, que vous connaissez évidemment très bien, vous avez l'ambition d'embrasser le réel dans son entier, d'appréhender à travers ses livres le monde, vos livres, le monde et la vie dans toute sa variété. Et je note aussi, grâce à Thierry Gilibeuf, qui est venu ici même nous parler de taureaux, que vous êtes Onfray le sauvage. Pourquoi Onfray le sauvage?
Il a raison, Thierry, il est gentil, mais parce que c'est une biographie de taureaux, une des rares premières biographies qui était intitulée « Un taureau le sauvage ». Et parce qu'il me fait l'amitié de penser que je suis un petit peu aussi, et de fait je le suis. Je crois que je suis un sanglier, j'aime bien ma campagne, j'aime pas beaucoup Paris, j'aime pas beaucoup les villes, j'aime pas les dîners mondains, je n'y vais jamais, d'abord je n'y suis pas invité, mais j'aime effectuer un trajet solitaire et sauvage, oui ça me va très bien ça.
Alors je termine cette présentation en quelques mots en disant que vous êtes l'auteur de plus d'une centaine de livres, traduits dans plus de 25 pays sur la philosophie, évidemment avec notamment une contre-histoire de la philosophie qu'on écoutait aussi à la radio, sur la peinture, la gastronomie, la photographie, l'histoire, la religion, que sais-je, l'éthique aussi. Et là, nous allons maintenant parler de cette brève encyclopédie du monde dans le genre oxymore, c'est pas mal d'ailleurs,
oui.
Votre brève encyclopédie du monde, à chaque fois 700 pages. Donc, on en est au troisième volume. Au départ, il ne devait y avoir que trois volumes, mais en fait, il y en aura plus.
Oui, c'est un peu comme ça que j'avais fait aussi avec la contre-histoire. Je m'étais dit, en 3 ou 4 ans, je vais avoir le temps de faire le tour de tout ça. En fait, la contre-histoire m'a pris quoi, 12 volumes, je crois. C'est-à-dire 4 fois... oui, c'est ça.
Sans plus de 10 ans.
Oui, c'est ça. Oui, 14 ans, je crois. Et donc, la brève encyclopédie, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez raison de signaler qu'il y a un oxymore. Il y a un petit trait d'ironie dans la brève encyclopédie, puisque Cosmos ou Décadence font plus de 500 pages, et Sagesse aussi. Et puis je me suis dit, mais il y a d'autres sujets qui s'imposent à moi, et notamment la nature humaine. Je pense qu'on a évincé la nature humaine aujourd'hui. Tout serait culturel, tout serait artefact. Le corps n'existerait pas, il n'y aurait pas de garçon, il n'y aurait pas de fille, il n'y aurait rien de tout ça. Et je voudrais restaurer la question de la nature humaine. Darwin a fait un livre formidable avec l'origine des espèces en 1859. Mais en 1871, il fait un livre encore plus grand qui est La descendance de l'homme. Et je crois que nous n'avons pas tiré les conclusions de cette pensée majeure. Donc ça s'appellera Anima. Et je partirai de la tragédie grecque en passant par les fables, la tradition des fables, ce qui s'est passé aussi dans les camps de concentration pour savoir ce que l'homme est capable de faire à l'homme et de dire oui, hélas, il y a une nature humaine, hélas, enfin, ou tant mieux, parce qu'il y a aussi du meilleur dans la nature humaine. Il y aura un texte qui s'appellera esthétique et puis un texte qui s'appellera nihilisme. Et nihilisme renverra à la transgénèse, cette idée qu'aujourd'hui on est capable de transplanter des cerveaux, on est capable de donner des souvenirs à des souris, des souvenirs de choses qu'elles n'auront pas vécues, donc de supprimer des souvenirs, d'ajouter des souvenirs, donc de fabriquer un post-humain qui sera probablement assez inhumain au sens étymologique. Donc pour l'instant je suis parti sur 6 volumes.
Alors, on va parler du troisième, c'est-à-dire Sagesse, mais je voudrais le replacer dans son contexte et parler des deux précédents. Ce cycle, cette brève encyclopédie a commencé avec Cosmos, qui est sans doute un de vos livres les plus personnels. En tout cas, c'est un livre très personnel, où vous parlez beaucoup de votre père disparu aujourd'hui. Et vous dites, dès le départ d'ailleurs, que c'est votre premier livre, en quelque sorte, Cosmos. Pourquoi ?
Oui, parce que mon père est mort dans mes bras, alors que je fais des conférences un peu partout sur la planète et que j'habitais à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où il habitait. Je me suis dit, un jour, il va mourir, je ne serai pas là. Et j'espère ne pas être trop loin, j'espère ne pas être à Tokyo ou ne pas être à Melbourne. Et puis j'avais fait un dîner avec des amis, je l'ai raccompagné à sa maison. Il a une petite maison à 500 mètres de l'endroit où est la mienne dans mon village natal. On s'est retrouvé sur la place publique. Il m'a dit il faut que je me mouche. J'ai regardé le ciel parce qu'il m'a beaucoup parlé quand j'étais petit garçon de l'étoile polaire en me disant qu'elle était la première levée, la dernière couchée, qu'elle indiquait toujours le nord. Et c'était une leçon de philosophie. Je ne le savais pas, mais c'était plus une leçon philosophique d'astronomie. Même si c'était aussi une leçon d'astronomie. Il me disait sa lumière est partie il y a des millions d'années, etc., etc. Et donc il était en train de se moucher. J'ai regardé le ciel et le ciel était couvert. Je dis on verra pas notre étoile ce soir. Et mon père m'a dit non, ce soir le ciel est couvert et il est mort debout. Je l'ai porté puis je l'ai allongé sur le sol. Et moi qui ne crois pas en Dieu, en l'âme immatérielle, je me suis trouvé fort de quelque chose qu'il me transmettait, une espèce de force que je recevais. D'aucuns auraient dit c'est un passage de l'âme. Moi pas, j'y pense pas dans ce terme-là, mais je me suis dit j'ai hérité d'une force qu'il me faudra analyser. Et donc,
alors que votre vie était coupée en deux. D'ailleurs, vous dites, ma vie était coupée en deux dès lors. Il y a eu l'avant mort de votre père et l'après aussi.
Oui, parce qu'à un moment donné, on se dit d'abord, il faut être à la hauteur de cet héritage. Et puis ensuite, on interroge cet héritage. On dit, mais c'était quoi cette force? C'était quoi cette sensation étrange d'une puissance absolue, du genre, il va falloir porter ça pour que ton père dure encore. Et donc j'ai démarré avec Cosmos et puis ensuite Décadence et puis en fait je vois bien qu'à chaque fois chaque livre est un essai d'élucidation du mystère de cette force qui s'est trouvée transmise au moment de sa mort.
Alors je recommande à nos auditeurs qui nous écoutent en Afrique ou qui s'intéressent à l'Afrique les quelques pages que vous consacrez dans Cosmos à l'art africain instrumentalisé contre l'art occidental, qui sont des pages qu'il faut lire aujourd'hui, où il est question de restitution des œuvres d'art africaines. On parle aussi de Michel Léris, il y a plein de choses intéressantes dans ce livre, et j'y retiens une phrase phrase de Schopenhauer que vous citez quelque part dans une des nombreuses citations dans vos livres, le désir ne tient jamais ses promesses. Oui. Je trouve cette citation formidable. Oui. Le désir ne tient jamais ses promesses. Et puis il y a 2 ans plus tard, 2017, décadence, donc toujours dans ce cycle bref, encyclopédie, où là, vous parlez de l'effondrement du monde judéo-chrétien.
C'est ça, c'est-à-dire que on est souvent dans des perspectives extrêmement courtes et l'actualité, les journalistes, les chaînes d'info continue, tout ça nous contraignent un petit peu à l'instant pur. Et moi je me suis dit, faisons plutôt le travail du philosophe qui consiste à se défaire de l'instant pur et à prendre un peu de distance. Pas forcément de la hauteur, mais enfin ce serait mieux d'avoir de la hauteur, mais de la distance en disant, tâchons de voir d'où viennent les choses. Il y a chez Nietzsche 2 concepts importants. Nietzsche parle de la moraline et il parle de la généalogie. La moraline, c'est effectivement la morale des temps sans morale, c'est-à-dire le jugement de valeur, tout le temps c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, alors après on est fasciste, nazi, stalinien, homophobe, antisémite, etc., etc., et puis bon, voilà, on est dans la moraline, on est dans le nounours, dans la bougie, dans le poème, dans le vous n'aurez pas ma haine, je suis ceci, je suis cela, alors une fois on est Charlie, une fois on est Strasbourg, une fois on est qui l'on voudra, ça c'est la moraline, je ne dis pas qu'il faut être contre, mais c'est pas très intéressant pour un philosophe. Et Nietzsche dit, il y a une autre façon d'envisager les choses, c'est une façon généalogique. Prenons le terrorisme, par exemple. D'où vient-il? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, quelqu'un égorge un prêtre pendant la messe, estime qu'il va gagner son paradis en criant « Allah Akbar », etc. Et donc, je dis, mais il faut faire un travail de philosophe, c'est-à-dire la généalogie de ce qui est. Et plutôt que de dire aujourd'hui « il se passe des choses dans les banlieues, mais il se passe rien dans les banlieues, on égorge, mais on n'égorge pas, il y a du terrorisme, mais c'est pas du terrorisme », aborder les choses justement sur le point de vue de la moraline, je me suis dit, mais posons la question de la généalogie, qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui est en train de s'effondrer? Et j'ai commencé à en faire la généalogie, en me disant, mais ça démarre où, avec qui, quand, comment, etc. Et je démarre donc avec Jésus, personnage conceptuel.
Fiction nommée Jésus, dit-il.
Voilà, oui. Ouais. Oui, c'est une fiction annoncée dans l'Ancien Testament et dont certains juifs nous disent qu'elle n'est pas annoncée puisque finalement elle est réalisée. Ça donne les judéo-chrétiens. Il y aura ensuite Saint Paul qui tiendra un message un peu différent du message du Christ. Et puis il y aura ensuite Constantin pour donner forme politique à ce message-là dès le début du 4e siècle et on constitue l'Empire et nous sommes dans cet Empire qui s'effondre. Et donc on comprend mieux pourquoi il y a du nihilisme, pourquoi effectivement la moraline fait tellement la loi, pourquoi on est si peu dans la généalogie. Et donc Décadence faisait la biographie d'un personnage qui n'existe pas, Jésus, d'une certaine manière, et raconter où on en était arrivé, c'est-à-dire cette espèce de fracture qui travaille notre société. Alors les gilets jaunes n'étaient pas encore là, mais je pensais plus à une fracture de civilisation qu'à une fracture de société. Et cette fracture de civilisation, elle suppose qu'on pense le monde en termes de spiritualité. Donc il y a un monde musulman, et je dis, nous avons, nous occidentaux, fait du mal à ce monde musulman partout sur la planète. Enfin, les guerres encore récemment, en Libye, en Syrie, en Irak. Et j'ai dit à un moment donné que nous avons récolté nationalement ce que nous avons semé internationalement, ce qui m'a valu effectivement la haine des journaux bien-pensants, juste pour dire, mais c'est juste un travail généalogique. Donc Décadence proposait ça. Et après, quand les gens m'ont dit, mais tout le monde, tout s'effondre là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bah attendez, dans ces cas-là, je vous fais un livre, ça s'appelle Sagesse, et je vous dis comment on se comporte dans un monde qui s'effondre.
Alors vous dites même dans ce livre, Décadence, avant de parler de Sagesse, qu'on peut même arriver aujourd'hui à une situation où, avec le transhumanisme, on arrive à une fin de civilisation. Vous parlez même d'ultime civilisation avec le transhumanisme, où en gros, il nous restera à lire soit 1984 ou soit Le Meilleur des Mondes.
Alors je pense qu'on arrivera même à ne plus lire du tout, c'est déjà un peu le cas. Vous voyez comment l'illettrisme gagne, comment même l'illettrisme gagne chez les professeurs d'université, c'est assez sidérant. Les professeurs d'université sont assez spécialistes d'un domaine qui est le leur et qui est très pointu. Et puis en dehors de ce domaine-là, eux aussi sont souvent dans un illettrisme assez généralisé. Je pense que nous allons vers une civilisation de type un peu égyptien avec des scribes. Et des gens qui ne sauraient ni lire, ni écrire, ni compter, ni penser, donc. Et ce que nous proposent les GAFA, c'est très exactement ça, c'est-à-dire l'usage que nous avons de notre propre téléphone portable, contribue à ce projet inhumain de fabriquer des postes humains dans lesquels il y aura effectivement des gens qui pourront vivre, qui pourront jouir de la vie, et puis d'autres qui seront franchement des esclaves qu'on entretiendra franchement comme tels. Donc on voit un peu aujourd'hui à quoi ça ressemble, et on laisse faire tout ça. C'est-à-dire parce que là encore, on n'a pas la longue distance ou la perspective des longues durées qui nous permettent de voir que ceux qui travaillent à ce projet, ils travaillent ardemment, et qu'ils ont très clairement dit qu'ils voulaient ce genre de créature qui est assez effrayante.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Nietzsche, Michel Onfray. Il est présent dans les trois livres, en fait. Vous lui dédiez vos trois livres. Le dernier en date, Sagesse, donc, commence avec cette citation. Il vaut mieux être à la périphérie de ce qui élève qu'au centre de ce qui s'effondre. C'est la situation
oui,
dans laquelle on est.
Oui, je pense, effectivement, que la périphérie permet de voir le centre qui s'effondre. Et il faut ce qu'on a appelé le point de vue de Sirius, c'est-à-dire être capable de grimper sur la Lune, ou Sirius pour le coup, pour voir ce qui se passe vraiment sur la Terre. Et c'est une vieille histoire, il y a ça déjà, c'est Lucien de Samosate, enfin, l'idée de changer de planète intellectuellement pour voir comment ça marche. Comment peut-on être persan? Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Comment peut-on être judéo-chrétien? Et ça suppose qu'on soit capable de rejoindre des, j'allais dire, des hauteurs. Enfin, n'exagérons rien, mais une situation de surplomb qui nous permettrait de dire j'en suis, mais si je m'en extrais, que puis-je dire de cette civilisation? Et tout ça paraît extrêmement cohérent. Enfin, je fais une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, mais je veux dire une proposition de lecture des civilisations qui ne se fait plus. Il y a eu des Toynbee, même des Vico, des Toynbee, des Spengler ou des Hegel qui faisaient des grandes fresques comme ça, ou même Malraux sur le terrain de l'art et de la culture. Et j'ai essayé de proposer ce genre de grandes fresques ce sont des livres qu'on ne peut écrire que tardivement parce qu'il faut accumuler de la culture et du savoir pour pouvoir y mettre de l'ordre après, je sais pas, 30 ans, 40 ans de lecture.
Parlons maintenant avec, grâce à Sagesse et avec Sagesse, Michel Onfray des Romains. Les Romains. Alors, je voudrais qu'on fasse leur connaissance par l'intermédiaire de Lucien Gerfagnon, justement. On y revient, Lucien Gerfagnon, qui, dans son histoire de la pensée, écrit ceci à propos des Romains. Et là, on va goûter au style de Lucien Gerfagnon. Il parle de cette bourgade du Latium, Rome, peuplée de cutéreux, héroïques, intellectuellement nuls au départ, mais doués d'une vitalité, d'une ténacité, d'une capacité d'assimilation qui la dotèrent du plus grand empire qui fut et d'une des plus durables civilisations. Et un peu plus loin, il écrit ceci, Lucien Gerfagnon, « Un Romain n'est pas seulement, comme on le croit trop souvent, un soudard botté et casqué, passant le plus clair de son temps sur les champs de bataille et qui se fait vomir, couronné de roses, à ses moments perdus au cours d'orgies mémorables, fadesque tout cela, cliché indéfiniment reconduit par le roman historique et le cinéma. En fait, le Romain est un guerrier heureux, c'est, si l'on s'y tient, un nouveau riche, un parvenu, mais intelligent et qui n'aura de cesse qu'il ne se soit pourvu d'une tradition qui le fasse éternel, comme les civilisations qu'il absorbe et assimile avec une facilité déconcertante. » Vous avez vraiment un style qui ressemble à Lucien Gerfagnon.
C'est sidérant. C'est sidérant. Hein. Vous étiez en train de lire ça, je me disais, mais je suis dans le pastiche quasiment.
Il vous a marqué à ce point.
Oui, hein. Mais quand vous le lisiez, je l'entendais. Je l'entendais parler, raconter, dire ça, quoi. Et il nous mettait en présence effectivement d'un monde mort, mais qui avec lui était capable de renaître immédiatement. Alors, il dit une chose, mais ailleurs il dit un peu son contraire, parce qu'il a bien raison, parce que il dit méfiez-vous de l'essentialisation du Romain. Là, il fait le philosophe quand il dit une chose comme ça. Le Romain ceci, le Romain cela, etc. Et moi, je le fais aussi et j'ai tort de le faire. Parce que il y a un Romain de la monarchie, un Romain de la République, un Romain oui. de l'Empire. Le début de l'Empire n'est pas la fin de l'Empire. Enfin, il faut être quand même très précis après quand on dit le Romain, est-ce que c'est vraiment le Romain du 5e siècle qui n'est pas celui du 2e, qui n'est pas celui du 3e après Jésus-Christ, quoi. C'est vraiment très très différent. Mais
Lucrèce n'est pas Marc Aurèle, par exemple. C'est pas la même.
Exemple, mais en même temps, ils ont quelque chose de commun. Ils sont dans une sensibilité éthique qui est commune. C'est-à-dire que, par exemple, le début de la monarchie, il n'y a pas de pensée à proprement parler. Il y aurait plutôt une mythologie, c'est-à-dire un récit qui renverrait à des histoires fondatrices qui seraient les histoires de la mythologie. Donc, le Romain, ça n'existe pas véritablement, sauf quand on a le désir d'en fabriquer un sur mesure. Et de fait, j'en ai fabriqué un sur mesure qui est Caton. C'est-à-dire, c'est l'homme de la République, c'est l'homme de la vertu. Et Gerfagnon m'avait appris justement à faire attention à ce qu'on disait des empereurs, parce que l'histoire des empereurs, elle est souvent écrite par des gens qui ont la nostalgie de la République. Donc un peu comme s'il y avait aujourd'hui, je sais pas quoi, des anciens gaullistes qui écrivaient l'histoire d'Emmanuel Macron, on voit bien que ça ne serait pas forcément une histoire très objective.
Ceci dit, on se méfie en lisant vos pages, Michel Onfray. Vous nous incitez à nous méfier de tout ce qui est écrit, parce que vous, à la fin du livre, vous parlez de certains historiens de la Rome antique qui ont en gros inventé un peu. Bon, je ne vais pas les citer ici, mais vous dites Pierre Grimal, par exemple. Je le fais quand même. Vous dites, bon, il a quand même rempli quelques cases pour raconter son histoire.
Il le dit lui-même. C'est-à-dire, j'ai trouvé des textes assez sidérants où Grimal dit, bon, quand on sait, on le dit.
Une référence dans l'histoire de Rome à l'université.
Oui,
en tout
mais bien sûr, ouais, oui. Ouais. Et puis, quand on trouve pas, on invente. Et voilà, il le dit très précisément. Je me serais pas permis de le dire autrement. Non, c'était juste pour, non pas pour accabler les historiens, mais juste pour dire que l'historien objectif, ça n'existe pas. L'historien objectif, c'est celui qui nous dit, et ils se sont tous trompés, mais pas moi, parce que moi, je suis vraiment dans la scientificité, etc. C'est pas vrai. On est tous dans la subjectivité. Et de fait, je parle de Carcopino, je parle de Grimal, je parle de Paul Venn, je parle même de...
Vous faites intervenir la vie, en plus, de ces historiens, Carcopino, par exemple, Pétain, le régime de Vichy, etc. Voilà. Ça, c'est une, je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas, qui connaissent pas votre travail, que vous êtes attaché, vous, non seulement à connaître les textes de penseurs, mais aussi leur vie.
Absolument.
Pour voir si les deux sont cohérents. Ouais.
Pensez bien que si vous êtes, comme Carcopino, vichiste, vous n'allez pas penser, César ou Néron exactement de la même manière que si vous êtes résistant et que vous êtes gaulliste. Donc, effectivement, il y a des enjeux comme cela, qui se sont joués pendant tout le XXe siècle avec des gens qui ont abordé Rome avec leurs lunettes. Et je dis juste, sachant de quelles lunettes il s'agit. Par exemple, quand Pierre Grimal parle de Sénèque ou de Cicéron, il est quand même très gentil avec ces deux individus-là, parce qu'il en fait en gros des gaullistes, c'est-à-dire des individus qui auraient un tel sens de l'État que tout ça serait formidable, et s'il y a deux ou trois petites choses dans la vie qui sont pas très nettes, c'est pas bien grave, parce qu'ils avaient le sens de l'État, ils ont le sens de la cité, ils ont le sens de la nation, disons-le avec un vocabulaire évidemment inadéquat. Et on se dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce sont quand même des gens qui ont été très intéressés personnellement par le pouvoir, qui ont fait fortune personnellement. Et donc, évidemment, Carcopino fait tout ce travail sur Cicéron, il dit, Cicéron n'est pas le héros de la cité que vous voulez bien raconter parce que il a fait ceci, il a fait cela, etc. Donc il y a des enjeux politiques, personnels, subjectifs, d'époque dans la lecture des Romains. Et évidemment, je n'y échappe pas. Donc, je fais savoir que avec tous ces personnages, et j'intègre Lucien Gerfagnon, bien sûr, il y a une lecture subjective, mais que pour moi, l'objectivité consiste à annoncer sa subjectivité.
Alors, parlons des Romains. Vous écrivez quelque part dans votre livre, Michel Onfray, que sagesse, que Athènes, ce sont les idées, Rome, c'est la force. C'est ça qui vous a intéressé dans ce...
Oui, je m'en suis aperçu tardivement, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi... Pourquoi Rome me plaît et pourquoi est-ce que la Grèce ne me plaît pas? C'est-à-dire que quand vous lisez les philosophes grecs, la plupart du temps, ils vous emmènent sur le terrain des idées.
Ouais.
Y a des livres, par exemple, qui ne peuvent être que grecs. Je songe aux Parménides de Platon, à la métaphysique d'Aristote ou aux Énéades de Plotin. Et c'est vraiment de la métaphysique, de l'ontologie. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Est-ce que l'être est ou n'est pas? Quelles sont les modalités du non-être de l'être? Enfin bon, des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que la substance? Quelle relation entretient-elle avec la forme et l'attribut? On se dit, bon, tout ça c'est fort sympathique, mais ça permet quoi? De faire des profs de philo qui vont faire des profs de philo pour fabriquer des dissertes de philo ou des thèses de philo qui, bon, tout ça est fort sympathique, mais ça m'emballe pas plus que ça. J'ai lu ces grands textes, mais je n'y ai pas trouvé grand plaisir. En revanche, quand vous lisez des philosophes romains, il n'est pas du tout question d'ontologie, de métaphysique ou de réflexion sur l'être, mais de choses extrêmement concrètes. Il y a des dialogues sur l'amitié, sur l'amour, sur la vertu, sur le plaisir, sur la souffrance, sur la douleur. Et là, je me dis, c'est quand même nettement plus intéressant parce que quiconque s'empare d'un dialogue de Cicéron sur l'amitié verra que ce dialogue peut lui être utile. Alors qu'une réflexion sur la substance chez Aristote, faut vraiment être un professeur de philosophie pour trouver de l'intérêt à ce genre de texte. Regardez la statuaire, c'est exactement la même chose. Et la statuaire grecque, elle est pure, elle est très belle. Faut pas oublier qu'à l'époque, elle était peinte en plus de ça. Mmh. Aujourd'hui, on a l'impression que le marbre était blanc, mais non. Ça veut dire que la couleur de la peau ressemble à la couleur de la peau, la couleur des yeux à la couleur des yeux, etc. Mais on a une espèce de pureté absolue, parce que on raconte un corps idéal, un corps qui n'existe pas. Ce corps de joli garçon, ce corps de jolie femme, ça existe quelques mois dans une vie chez tout un chacun. Prenez la statuaire romaine, imaginez la peinte, elle aussi, et vous aurez des personnages qui ressemblent à tout un chacun. On est un peu chauve, on a une barbe, on a un grain de beauté, on a un petit ventre, on est un peu gras, on est ceci, cela, parce que l'âge est ainsi. Et quand on voit la statuaire romaine, effectivement, on voit des gens concrets, on voit des photographies de gens. On se dit, ah ben celui-ci, vraiment, il pourrait très bien se mettre à parler, à s'animer. Eh bien, c'est la même chose en matière d'idées. C'est-à-dire que chez les Grecs, l'idée pure est importante. Si on parle de l'amitié, on parle de l'idée d'amitié. On parle du concept Platon, d'amitié, ah oui. Voilà. Si on est chez les Romains, on parle de l'amitié concrète en disant, pouvez-vous avoir pour ami quelqu'un qui est votre maître? Pouvez-vous avoir comme ami quelqu'un qui n'est pas sage? Pouvez-vous avoir comme ami quelqu'un qui est beaucoup plus riche que vous? Et on se dit, ben, voilà, ce sont deux façons de faire de la philosophie, et moi je préfère la façon romaine parce qu'elle parle à tout un chacun, et de la même manière qu'on ne peut pas être, on ne peut pas se servir du Parménide de Platon pour vivre une vie philosophique, ou pour la métaphysique d'Aristote, il en va de même. On peut se servir de Cicéron, de Marc Aurèle ou de Sénèque pour mener une vie philosophique.
Ou de Lucrèce.
Ou de Lucrèce, bien sûr.
Alors,
oui.
Commençons avec lui, Michel Onfray, et ça rejoint ce qu'on disait à propos de Lucien Gerfagnon, c'est lui qui vous a fait connaître Lucrèce, non?
Oui, c'est ça, le coup de foudre, c'est ça. Le coup de foudre, c'est un cours sur, il nous fera un peu plus tard un cours sur les Énéades de Plotin, mais il se met à nous parler de Lucrèce comme s'il était un contemporain. On a l'impression que Lucrèce, c'était lui qui ouvrait la porte, qui entrait, qui s'installait au bureau, il sortait sa montre goussée, il la posait sur la table, le bureau faisait une caisse de résonance, ça faisait un tic-tac-tic-tac-tic-tac pendant toute l'heure.
Et il était comme à l'ancienne.
Oui. Et puis, il commençait à nous raconter le bordel, les prostituées, Rome, où elles se trouvaient à Rome, comment ça se passait, etc. Et puis, d'un seul coup, c'était du cinémascope. Et puis, paf, il arrive avec une idée de Lucrèce qui nous dit, eh bien voilà, Lucrèce, sur la théorie de l'amour, nous dit, sur le désir, il est comme ceci, il est comme cela, aller au bordel, mais retrouver l'esprit. On se dit, mais d'un seul coup, il est en train de nous raconter le texte de Lucrèce comme s'il s'agissait d'un roman. Et moi, j'ai été effectivement sidéré. Et puis après, quand on fait vraiment un travail de lecture très, très fin, en disant, plume à la main, je fais un travail de lecture, eh bien, on découvre une éthique, une morale, une sagesse, et on se dit, mais on peut être moral sans Dieu. C'est ça qui m'intéressait aussi, moi, qui avait été fabriqué par les curés, par le catéchisme, etc. On se disait, mais finalement, on peut être moral, il y a un bien et un mal, il y a des vices et des vertus, et on n'a pas besoin de Dieu pour ça, et Lucrèce nous raconte comment ça marche.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu épicurien?
Oui, disons-le comme ça, mais épicurien, c'est...
Il faut redéfinir, sans doute,
voilà,
ce terme.
Voilà, ouais. Le dictionnaire, il y a deux sens contradictoires. On dirait presque oxymorique. Ouais. C'est-à-dire, vous avez disciple d'Épicure, et Épicure est un philosophe qui nous dit qu'il faut travailler sur ses désirs et ne satisfaire que les désirs naturels et nécessaires. Vous avez faim, calmez votre faim en mangeant quelque chose. Vous avez soif, calmez votre soif en buvant quelque chose. Le mieux étant le plus sobre. Petite tartine de pain, et puis un verre d'eau, et ça suffira. Et à ce moment-là, vous allez connaître l'absence de souffrance qui est ataraxie, qui est donc le plaisir. C'est ce que dit Épicure. Vous voyez que c'est pas du tout le sens numéro 2, qui est jouissance totale, plaisir de tous les corps, et débauche forcenée. C'est même l'antidote, c'est très exactement l'antidote. Alors je deviens épicurien au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'effectivement je dis, mais il faut travailler ses désirs, ses plaisirs, sa présence au monde, et ça je pense que je le suis resté. Alors après, l'histoire d'un épicurien du genre cigarette, whisky et petite pépée, ça c'est la caricature qu'on en fait habituellement, c'est l'hédonisme trivial qu'on met souvent à la figure de celui à qui avec lequel on ne veut pas discuter, parce que parler du plaisir, c'est parler de son propre plaisir.
Alors justement, Michel Onfray, est-ce qu'il est réellement possible de vivre une vie de philosophe, c'est-à-dire d'avoir des actes qui sont en conformité avec ses pensées?
Oui, ben moi je ne crois qu'à ça. Et je vous assure que c'est un vrai...
C'est ce qui fait votre singularité aussi, parce que nous invitons souvent des philosophes ici qui prennent la philosophie comme un objet d'étude.
Oui.
Et pas forcément comme une conduite, un objet de conduite de vie.
Oui, ça permet de dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire, je veux pas prendre des exemples, mais vous avez des gens qui nous disent qu'il faut être humaniste et qui dans la vie ne le sont pas du tout. Des philosophes qui nous disent qu'il faut pas mentir et qui passent leur vie à mentir. Moi, je pense qu'il faut être à la hauteur de ce qu'on annonce, mais qu'on n'est pas tenu d'annoncer ce qu'on annonce. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'il faut faire le bien si vous faites le mal. Mais si vous dites qu'il faut faire le bien et que vous faites le mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Nietzsche dit à un moment donné qu'il ne croit un philosophe que dans la mesure où il est capable de fournir un exemple. Ce que je crois. C'est-à-dire que nombre de philosophes, y compris aujourd'hui, donnent des leçons et ne tirent pas pour eux-mêmes les leçons qu'ils enseignent à autrui. Donc ça, effectivement, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Je passe à autre chose. Je me dis, pour moi, ce sont pas des philosophes, ce sont des gens qui se servent de la philosophie, mais qui ne la servent pas, parce que la philosophie va pour moi, mais ça, c'est comme ça pendant toute l'Antiquité, pendant les 10 siècles de l'Antiquité, la philosophie ne va pas sans la vie philosophique qui l'accompagne. On n'est pas philosophe parce qu'on écrit un livre de philosophie, ou parce qu'on fait une dissertation de philosophie, ou parce qu'on fait un cours de philosophie, ou parce qu'on expose bien de façon didactique et pédagogique la pensée de Platon ou de Plotin. On est philosophe parce que dans la vie, on entretiendra un rapport particulier à l'amour, à l'amitié, à la souffrance, à la douleur, au pouvoir, à la générosité, à la vertu, à la justice, au bien, au vrai, au mal, au faux, etc.
Autant de thèmes que vous développez dans ce livre, d'ailleurs, dans 3 parties, hein, soi, les autres, et ensuite le monde, une écosophie des choses. Écrivez-vous, on va prendre quelques exemples, si vous voulez bien, Michel Onfray. Vous parlez, dès le début du livre, du dieu de Pline l'Ancien. Que nous apprend Pline l'Ancien, précisément?
C'est pas très facile de répondre à la question de la religion chez les Romains. D'abord parce que je disais tout à l'heure que les Romains, c'est la monarchie romaine, c'est la République romaine, c'est l'Empire romain, et qu'effectivement on ne croit pas aux dieux exactement de la même manière. Mais pour ce que j'ai pu en comprendre, je suis pas sûr forcément d'avoir tout compris. Les Romains ont l'impression que un dieu, c'est un vivant qui a fait bien, qui a bien fait, et que finalement ce vivant qui a bien fait, il est toujours présent. Alors quelles sont les modalités de cette présence? C'est compliqué à dire quand on est fabriqué par le judéo-christianisme qui nous dit qu'il y a l'âme immatérielle, qu'il y a une espèce de fantôme ou d'ectoplasme que nous pourrions revivre sous forme de corps glorieux. Alors évidemment ça complexifie un petit peu les choses, parce que on a du mal à faire l'économie de ce schéma-là quand on pense la question du dieu chez les Romains. Et le dieu chez les Romains, c'est effectivement un grand, c'est la doctrine d'Evémère, c'est un grand homme dont on a gardé les grands caractères pour le déifier d'une certaine manière. Mais là encore, il faut faire attention, on ne déifie pas comme on déifierait une icône ou une idole, mais simplement comme un modèle auquel on s'adresse. Et il a une espèce de présence au monde, bien qu'il soit physiquement absent. C'est pas non plus une présence ectoplasmique, disons une présence idéale, enfin c'est ainsi du moins que je l'imagine. J'en ai parlé par exemple avec Pierre Vesperini, qui est pour moi l'un des grands penseurs qui rénove complètement la lecture de la philosophie antique, et qui lui me confie aussi que ça n'était pas plus clair pour lui que pour moi, cette idée que effectivement le dieu des Romains puisse être abordé indépendamment des catégories du dieu du christianisme. Mais pensons le dieu romain comme une espèce d'idéal et qui serait atteignable puisqu'il a été atteint. Et dans ces cas-là, on se dit, ben oui, effectivement, pourquoi pas un dieu comme ça? Si c'est le dieu transcendant, le dieu créateur du monde, le dieu qui nous punit, le dieu méchant, le dieu, etc., évidemment, je ne crois pas une seconde à ça. Mais des dieux qui, un peu comme mon père, pour le coup, fonctionneraient comme des figures tutélaires, seraient mortes, bien sûr, mais resteraient présentes dans la transmission de ce qui aura été donné pendant une vie, puis même à un moment de la mort, j'ai raconté ça tout à l'heure, ou même après, dans l'absence de la mort, eh bien, ça permet d'envisager la religion de manière totalement immanente, foncièrement immanente. C'est-à-dire, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'arrière-monde, mais ici-bas, nos morts sont là, et ils nous guident dans ce qu'ils ont fait de grand, ou dans ce qu'ils ont dit de grand.
Il y a aussi dans votre livre l'importance de la relation maître-élève qui a disparu aujourd'hui, en précisant, là je vous cite, « À moins d'aspirer au statut de gourou dans une secte, le bon maître ne souhaite pas la ventriloquie de ses disciples, mais leur émancipation. » C'est toute la différence, effectivement.
Oui, et Lucien Gerfagnon disait ça, il était très heureux, il disait « Mais regardez, Michel Onfray, c'est le contraire de moi, et c'est mon disciple, c'est mon élève. » Donc effectivement, on fabrique, il me disait « Je n'ai pas fabriqué un clone avec vous. » Et en même temps, si, vous l'avez montré tout à l'heure dans la lecture de ces quelques lignes, on voit bien que dans la liberté d'écriture, de pensée, de réflexion, je suis un véritable disciple. Mais lui était plotinien, lui croyait à un dieu transcendant. Il a été prêtre pendant 10 années, il a défroqué et il est resté quand même très très sensible à la dimension transcendante de Dieu. Même si j'ai toujours cru qu'il était vraiment plotinien. On a eu des discussions là-dessus. L'un bien pour lui, c'était vraiment le nom adéquat de Dieu, le nom qu'il fallait donner à Dieu. Donc évidemment, il ne m'a pas fabriqué comme un clone, mais il m'a fabriqué comme quelqu'un d'autonome. Et il y a une belle phrase de Nietzsche qui dit « Un bon maître est celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. » Et c'est ce que Lucien Gerfagnon m'a appris. C'est-à-dire que l'Aufhebung, disent les philosophes qui veulent citer absolument Hegel, c'est-à-dire la conservation et le dépassement. C'est un oxymore aussi, mais on conserve et on dépasse. C'est-à-dire que Gerfagnon, je l'ai conservé et je l'ai dépassé. Et c'est ainsi qu'un bon maître fabrique un disciple, c'est-à-dire il le conserve mais le dépasse. Et c'est dans le dépassement qu'il le conserve le mieux.
Alors comment résumer, c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs romains, beaucoup de philosophes romains, cette philosophie romaine qui aboutit à la sagesse dont vous parlez dans votre livre, Michel Onfray. Citons par exemple Marc Aurèle, j'ai retrouvé une de ses pensées, c'est dans le livre 2 exactement, publié dans la Pléiade pour être précis, Marc Aurèle qui dit ceci: « À toute heure du jour, songe gravement comme romain et homme, à faire ce qui t'incombe avec le sérieux d'un homme exact et simple, avec tendresse aussi et libéralité, avec justice enfin, en donnant congé à toutes les autres pensées. » C'est ça, Rome ?
C'est pas tout Rome, mais c'est la grandeur de Rome. Oui, cette phrase est belle. Elle est magnifique parce que effectivement, elle fait la démonstration que la philosophie n'est pas une affaire de papier, une affaire de concept, une affaire de livre, une affaire d'exégèse, une affaire de commentaire, mais qu'elle est une affaire de pratique, de sagesse pratique. Et c'est ça qui est intéressant chez les Romains. C'est-à-dire, il y a une autre phrase, et je croyais que c'était celle-ci que vous alliez lire, mais où il dit quelque chose du genre: sache dès que tu te réveilles le matin que tu vas rencontrer un ingrat, un fourbe, un méchant, un prétentieux, etc.
Que vous citez dans le livre aussi.
Oui, voilà. Et des phrases comme celle-ci, du moins les idées qui se trouvent dans ces phrases-là, sont des idées qui peuvent accompagner au quotidien. Et si le matin, quand vous vous réveillez à l'heure du café, de la douche, ou du dépliement, ou du déploiement de soi, quand on sort de son lit, etc., on se dit, j'aborde cette journée avec l'envie d'en faire quelque chose de plein, et d'en faire quelque chose de philosophiquement plein, alors il y a une espèce de jubilation qui s'empare de vous, parce que vous dites, j'ai donné un sens à ma vie, en donnant un sens à cette journée, puis à la journée qui suivra, puis à la journée qui suivra celle qui suit, on donne un sens à sa vie, et au bout du compte, on finit par avoir construit sa vie comme une œuvre d'art. Alors, vous avez cette première partie qui s'intitule « L'éthique de la dignité », c'est-à-dire que peuvent nous apporter les philosophes romains pour nous, pour être meilleurs. Et il y a cette deuxième partie qui est intitulée « Une morale pour l'humanité », où l'on voit que les Romains se sont même attaqués à des sujets qui sont aujourd'hui tabous. Pourquoi, par exemple, de faire des enfants ? Ça, c'est de vous développer dans le livre, et vous dites que pour les Romains, c'était un sujet de discussion, de réflexion aussi. Alors, vous mettez le doigt sur le chapitre qui m'a posé le plus de problèmes, parce que c'est le chapitre le moins romain de tout ce livre, parce que effectivement, je me suis dit, je cherche des philosophes romains qui n'auraient pas invité à l'engendrement.
C'est ça.
Et c'est rare.
Oui.
C'est rare, parce que il y a chez les Romains un civisme qui fait qu'il faut se marier, faire des enfants.
Et une femme doit être mère.
Absolument. Ouais. Et puis un homme doit être père, et il faut que un couple se fasse pour que des enfants existent, pour faire des soldats, des citoyens, etc. Et là, effectivement, je ramène les choses à moi, parce que moi, je n'ai pas souhaité faire d'enfants, et je voulais défendre ma position. Donc, comment est-ce que je peux défendre ma position tout en allant chercher les Romains, puisque les Romains défendent plutôt le contraire de cette position. Donc, il y en a des philosophes romains qui nous disent effectivement qu'il ne faut pas faire d'enfants et qui donnent leurs raisons, mais ils sont plutôt minoritaires. Donc, à Rome, c'est plutôt faites des enfants, et les philosophes ont fait des enfants, les philosophes qui sont les grands philosophes romains qu'on connaît. Enfin, on sait rien pour Lucrèce sur sa biographie, mais il était probablement marié, père de famille. Ce sont quelques philosophes cyniques qui ont dit effectivement qu'il ne fallait pas faire d'enfants parce que, par amour des enfants. Mais ça, ce sont des choses qu'on trouve chez Eschyle, chez les tragédiens grecs, en disant que il ne faut pas aimer les enfants pour faire des enfants. Et que si on aime les enfants, on n'en fait pas parce que justement, c'est trop dur de les éduquer à un monde violent, brutal, agressif, de leur dire il faudra dire la vérité alors qu'on sait très bien qu'on triomphe plus facilement en pratiquant le mensonge, de leur dire il faudra être vertueux alors que ce sont les vicieux qui sont la plupart du temps récompensés. C'est difficile de prendre le risque de fabriquer des enfants en disant je vais leur enseigner une chose en sachant très bien qu'il leur faudra pratiquer l'inverse pour pouvoir passer entre les gouttes.
Alors il y a d'autres choses, d'autres valeurs qui sont dans ce livre, dans cette morale pour l'humanité. Il y a l'amour, évidemment, les différentes façons d'aimer, le sens donné à l'amour. Et il y a cette troisième partie qui s'intitule « Une écosophie des choses », où là, c'est Rome regardant le monde. C'est ça, comment se comporter avec l'autre ?
Avec les choses, plus parce qu'il y avait soi, les autres et le monde, et dans la partie qui concerne le monde, c'est que faire avec le pouvoir, que faire avec les choses, avec les objets, que faire avec l'argent.
Posséder sans être possédé.
Voilà, c'est ça.
Par exemple,
c'est ça.
Une citation.
Ouais. Et effectivement, c'est ça la question. C'est est-ce que quand je possède quelque chose, je ne suis pas possédé par ce que je possède. Ces philosophes qui nous disent il faut pas d'argent, il faut pas de pouvoir, il faut pas de meubles, il faut pas de vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'une écuelle pour manger, vous avez besoin de d'une paillasse pour dormir. En gros, et à quoi bon avoir un lit à baldaquin, avoir des matelas, avoir des draps, des couvertures avec des étoffes précieuses ou ce genre de choses. Et puis, il y a certains philosophes qui disent, mais c'est pas bien grave, on peut même avoir des lits à baldaquin avec des étoffes précieuses si l'on n'est pas possédé par ce que l'on possède, et qu'on reste libre à l'endroit de ces objets-là, alors pourquoi pas. Et donc, je ne voulais pas faire un éloge d'une austérité du dépouillement, encore que je pense que les décroissants aient raison de l'être, et de vouloir l'être, et de vouloir qu'on le soit, mais de dire, trouver la juste mesure. Il y a la cellule du moine, c'est possible, et il y a l'orgie de Byzance ou de Babylone, mais entre deux, on peut trouver effectivement un sain rapport aux choses, à soi, aux autres, au monde, en se disant l'important c'est de ne pas être aliéné.
Ouais. Alors, autre question dans la philosophie romaine d'importance, quand on connaît l'histoire de Rome, c'est la question, faut-il faire de la politique ou pas ? Ça, c'est une question qui est au cœur du livre aussi.
Oui, alors...
Faut-il s'occuper du politique ?
C'est ça. Alors, la question est peut-être posée aussi autrement, c'est quand on s'occupe du politique, comment doit-on s'en occuper ? Parce qu'un Romain apolitique, ça n'existe pas.
Ouais.
Vous pouvez pas dire, moi je suis un individu, d'abord l'individu c'est une invention tardive, c'est plutôt Descartes, on n'a pas le temps, mais il faudrait rentrer dans le détail pour voir comment la Renaissance rend possible la création d'un jeu, le fameux je pense donc je suis, qui dit, eh bien évidemment on peut être un individu, et aujourd'hui d'ailleurs on n'est plus que des individus, mais à Rome un individu ça n'existe pas, on est le fils d'eux, on est le frère d'eux, la femme d'eux, l'enfant d'eux, ou on est dans une tribu, on est dans une communauté. Et donc c'est la communauté familiale, la communauté de la gens, du nom de famille, la communauté de la cité ou la communauté de l'empire. Donc il n'est pas question qu'on ne s'occupe pas de politique. Tourner le dos à la politique, c'est pas pensable. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs pour dire que quand Marc Aurèle laisse persécuter les chrétiens, c'est pas du tout parce qu'il ne veut pas que les chrétiens soient des chrétiens, il dit juste qu'il ne peut pas accepter que des gens se comportent de manière anti-civique. Ils disent, mais moi, mon Seigneur, il est dans le royaume des cieux, mon Seigneur n'est pas de ce monde, Marc Aurèle dit, mais c'est pas possible, leur Seigneur est de ce monde puisque c'est l'empereur. Il y a une espèce de religion civique chez les Romains. Donc oui, il faut faire de la politique, mais on peut en faire en étant consul, bien sûr. C'est tout à fait envisageable, mais on peut le faire aussi comme les Gracques. Et les Gracques sont les gilets jaunes d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui estiment que dans cette fracture qui sépare les patriciens des plébéiens, les patriciens possèdent les terres, descendent des grandes familles de la monarchie, des origines de Rome, et les plébéiens ne possèdent rien du tout. Et à un moment donné où les plébéiens disent, mais attendez, on produit des richesses, on fait la guerre, on ramène des butins, une partie de la richesse nationale c'est aussi nous, donc il y a une espèce de sécession de la plèbe qui monte sur l'Aventin et qui dit mais on voudrait, qui grimpe sur les ronds-points si vous voulez, qui dit on voudrait disposer nous aussi du pouvoir ou d'un peu de pouvoir. Et donc on nomme à ce moment-là un tribun de la plèbe ou des tribuns de la plèbe, enfin on rentre pas dans le détail, mais qui rendent possible une voie politique du côté des plébéiens. Et puis il y a les Gracques, et les Gracques c'est aussi une revendication genre gilet jaune, mais une revendication sur la répartition plus juste des biens et des richesses. Et ça se termine mal, évidemment, parce que le sang coule chez les Romains. D'assassiner, de massacrer, d'égorger un peu partout. Et donc, la réponse à cette question, oui, bien sûr, il faut s'occuper de politique. On peut s'en occuper en étant critique à l'endroit du pouvoir. Et on peut aussi s'en occuper en faisant fonctionner quelque chose de très simple, qui est la revendication de la justice. Et les Gracques Sénac, par exemple, ait exigé de la justice, qui était un impératif philosophique, qu'elle devienne quelque chose d'incarné dans la politique concrète.
Dans ce livre Sagesse, Michel Onfray, vous avez quelques, ce que vous appelez des intermèdes, c'est-à-dire vous focalisez sur un philosophe en particulier, où on parle, vous nous parlez par exemple de la double vie, selon vous, de Sénèque, ou de Cicéron, évidemment, et vous revenez sur notre ami, on l'aime beaucoup dans cette émission, Lucien de Samosate, pour lequel vous avez une tendresse, visiblement, qui était le critique numéro un des philosophes. Enfin,
c'est ça.
Qui débusquait, en fait, l'absurdité de certains des philosophes.
Oui, j'ai failli faire, on appelait ça une maîtrise à l'époque, avec Lucien Gerfagnon, sur la critique des philosophes, la critique philosophique des philosophes chez Lucien de Samosate, j'allais dire Gerfagnon. Et Lucien de Samosate est effectivement un Syrien, pour parler le langage d'aujourd'hui, qui écrit en grec, mais qui reste dans l'Empire romain, et qui se moque des philosophes en disant, mais regardez ces philosophes qui enseignent des choses, mais qui ne les pratiquent pas. Il écrit les sectes à l'encan, par exemple, ou
le banquet des philosophes.
Ou les banquets. Ouais. Où effectivement tous ces philosophes qui disent il faut être sage ne le sont pas, ou ils disent il faut être sobre, sont ivres et roulent sous la table, de dire la douleur n'existe pas, mais dès qu'ils se prennent un coup de poing dans la figure ils poussent des cris comme c'est pas possible. Et c'est Pascal, je crois, qui disait que c'était proprement philosophique que se moquer de la philosophie, mais je ne sais plus si c'est pas Montaigne, mais comme Pascal a repris beaucoup, a cité souvent Montaigne. Mais je pense effectivement qu'il y a une critique philosophique de la philosophie. Que dit Lucien quand il se moque des philosophes qui ne sont pas à la hauteur des idées qu'ils enseignent, qu'un philosophe doit enseigner des idées qu'il pratique? Donc c'est pas un satiriste comme on a beaucoup dit. Moi je voulais montrer la dimension philosophique de cette sagesse là, parce qu'il nous dit ayez peut-être une sagesse plus modeste, mais pratiquez-la. Ne nous dites pas que il ne faut rien posséder quand en fait vous n'êtes intéressé que par la possession. Ne nous dites pas que la douleur n'est que ce que on décidera qu'elle soit quand quelqu'un qui est un soldat qui passe et qui avec ses gros croquenots vous écrase le pied, vous commencez à pousser des cris. On est fondé à vous dire mais cette douleur n'est pas une douleur. Toi qui te dis stoïcien, pourquoi pousses-tu des cris alors qu'on vient juste de t'écraser les arpions, comme aurait dit Gerfagnon. Et donc c'est une façon intéressante pour moi de philosopher, parce que elle donne place à l'ironie, à l'humour, et de fait Voltaire n'est pas bien loin.
Qui fait du bien.
Ben oui, parce que bien sûr.
Ouais, ouais. Et on va terminer avec ça, Michel Onfray, vous réhabilitez à la fin du livre les gladiateurs. Ça, c'est, j'ai trouvé. Et les péplums aussi, en quelque sorte.
Oui, parce que le cinéma démarre avec un œil fixé sur la peinture. Ça, ce serait un autre sujet, mais enfin, je dirais...
Il reviendrait nous en parler, oui.
Oui, la peinture, par exemple, Jérôme, qui peint ce qu'on appelle des pompiers, c'est de la peinture pompier, on dit pompier, parce qu'en gros, les pompiers avaient des casques brillants et rutilants, et on voyait des casques brillants et rutilants dans ces peintures-là, et on nous montre une Rome qui n'existe pas. C'est la Rome que les chrétiens ont voulu fabriquer pour montrer qu'elle était sauvage et barbare. Et on nous dit, regardez, ils faisaient des combats terribles, les gladiateurs, c'est quand même incroyable, heureusement que les chrétiens arrivent pour mettre de l'ordre et du sens dans tout ça, de la douceur et de la bonté, parce que nous, quand même, on est des civilisés, eux, c'était des barbares. Et donc, on présente les combats de gladiateurs comme des combats de barbares. C'est pas du tout le cas. On oublie, par exemple, qu'il y avait un arbitre. Jamais vous ne verrez dans un péplum ou dans une scène de peinture la figuration de l'arbitre. Ce doigt levé ou baissé, ça n'existait pas non plus. Si vous avez fait un tour un jour dans le Colisée à Rome, vous imaginez bien que quelqu'un qui lève le pouce ou qui baisse le pouce tout en haut du dernier gradin, on voit pas qui il est. Et on n'a pas la possibilité de taper un ou taper deux pour dire tuez-le ou sauvez-le. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut restaurer un peu la vérité du combat de gladiateurs. Ce ne sont pas ce que les chrétiens en ont dit, c'est-à-dire le spectacle d'une barbarie. Mais c'est le spectacle que Rome se donne pour montrer ce qu'elle a de plus précieux, à savoir le courage. Et le courage, quand vous le démontrez, quand vous le montrez dans un combat, peut vous sauver la vie. C'est tout. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas courageux, on vous dit allez, disparaît. On n'est pas tenu quand on dit disparaît, ça peut être, c'est pas forcément physiquement. Mais si, en revanche, vous avez montré de la valeur, que vous êtes un valeureux, que vous avez montré que vous avez vraiment combattu, et que l'arbitre en a fait la démonstration, alors le peuple dit quelque chose que l'empereur avalise. C'est ça le problème. On nous a dit l'empereur décide, finalement le peuple veut une chose et l'empereur... Pas du tout. C'est-à-dire l'empereur est au service du peuple, qui lui est au service de la vertu, qui est le courage. Si vous avez montré du courage, la plupart du temps, tout se passe bien.
Merci Michel Onfray, on sent que vous aimez les romans, hein. On sent que vous les aimez bien, c'est un roman. Vous avez donc écrit Sagesse, la suite de votre brève encyclopédie du monde, brève entre guillemets, on l'a bien compris, un livre copublié par Albin Michel et Flammarion. Merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Idée, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rovansky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr
Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées, dans un instant un nouveau journal sur RFI.